RCF.
Nous poursuivons cette lecture de Marie Skoptsov, grande figure de l'Église orthodoxe russe en France. Elle a sauvé de nombreux juifs. Elle a été moniale, elle a aussi été mère de famille. On va s'arrêter sur ce parcours avec vous, Laurence Varro. Bonjour.
Bonjour Madame Mattel.
Vous vous êtes intéressée à cette figure de Marie Skoptsov. Nous sommes en 1936. Elle va ouvrir une petite maison rue de Lourmel, enfin plutôt une grande maison puisque la précédente était devenue trop petite. Des pauvres de tout Paris, je dirais, commencent à pousser la porte pour trouver simplement un accueil, manger, pouvoir être logé. Mais aussi, sûrement, trouver un accueil qui soit aussi de l'ordre du spirituel. Il n'y a pas que cet aspect matériel.
Oui, parce qu'il y a une chapelle et il y a un prêtre qui s'appelle Cyprien Kern, mais qui va rester que 2 ans parce que il trouve qu'elle exagère. Elle va fumer dans la cour de la rue de Lourmel. Elle est une moniale qui est trop atypique.
C'est une moniale qui sèche les offices, qui effectivement
Elle n'est pas toujours à l'heure et même quelquefois, il lui arrive de manquer un office. Parce qu'elle considère qu'elle a mieux à faire, et quand elle considère qu'elle a mieux à faire, c'est qu'elle va s'occuper d'une personne. Et les personnes, elle les considère comme des icônes. Il faut toujours revenir à ça, en fait, c'est ça qui va guider sa vie. Alors en 1936, elle a organisé ce qu'elle a appelé l'Action orthodoxe, qui était une association qui a réuni des intellectuels aussi avec elle, et des religieux. Il y avait Nicolas Berdiaev, il y avait Serge Bulgakov, il y avait Konstantin Motchulski, qui était l'auteur d'une grande biographie de Dostoïevski. Il y avait Ilya Fondaminski, qui est un juif qui se convertira plus tard au christianisme, mais qui mourra en déportation parce qu'il préférait vivre avec les chrétiens, mais dira-t-il mourir avec les juifs. Il y a tout un groupe de gens comme ça autour d'elle. Et puis il y a Gaïana, la fille aînée, mais la fille aînée, finalement, elle trouve que sa mère s'occupe pas assez d'elle. En tout cas, elle est perdue au milieu de tout ça. Elle part pour l'URSS, donc elle fait le trajet inverse. Et en 1936, elle meurt en URSS. Quelque temps après avoir appelé sa mère pour lui présenter ses vœux pour Pâques. Et là, la mort pour la deuxième fois d'un enfant la transperce. Et c'est à ce moment-là qu'elle est tentée d'aller errer sur les routes comme une folle en Christ. En fait, c'est pas exactement ce qui va se passer, mais elle va beaucoup bouger. Elle va prendre le train pour aller dans les hôpitaux psychiatriques, voir les Russes qui étaient hospitalisés, qu'on prenait pour des fous. Et un jour, un Russe lui dit « Mais c'est pas moi qui suis devenu fou, c'est la vie qui est devenue folle. » Et elle dit au médecin « Mais il faut lui donner du pain noir et du thé, il faut essayer non seulement lui donner les choses auxquelles il est habitué, qui vont le recentrer sur ce qu'il a connu, mais aussi lui permettre d'aller à une liturgie, à une divine liturgie, disent les orthodoxes, la messe, au moins une fois par mois. »
Et c'est l'Eucharistie.
Et c'est l'Eucharistie. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Parce qu'en fait, c'était des Russes qui avaient participé à la Première Guerre mondiale. Ils avaient fait partie du corps expéditionnaire russe qui venait en appui des Français. Et qui avaient été très abîmés psychologiquement et spirituellement aussi par la guerre. Et ça, c'est une question à laquelle elle restera sensible au moment de la Seconde Guerre mondiale.
Il faut comprendre que son engagement auprès des autres, c'est aussi, c'est comme ça qu'elle le perçoit, c'est vaincre le mal par l'amour. Elle a vraiment cette idée qu'elle va à la fois évidemment répondre aux premiers besoins, mais aussi participer à la lutte contre le mal. Et pour elle, le christianisme, c'est véritablement une force.
Oui, il y a un côté très combattant chez elle. Et puis elle est imprégnée de la notion selon laquelle nous sommes tous responsables de tous. Et donc d'un salut collectif, en fait de la communion des saints. Le prêtre orthodoxe ne va pas célébrer seul, il ne va pas, comme on dit, dire sa messe. Il célèbre la messe, la divine liturgie, le dimanche. Et le peuple est là. Les fidèles sont là. Il n'est pas seul. Il n'est jamais seul. Et il y a un chœur d'ailleurs qui chante, ce qui fait que les fidèles, en fait, parlent assez peu, sauf pour eux, le credo et le Notre Père. Mais ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. Les fidèles communient au même calice. Le prêtre n'est pas seul et nous sommes tous responsables de tous.
C'est le salut collectif, c'est quelque chose qu'on a peut-être parfois un peu perdu de vue, mais c'est très présent chez Mariskoptsov. Quelle est la place de l'Eucharistie ?
Ben, c'est le fait de communier au même calice. Parce que vous savez, les orthodoxes, c'est pas toujours quelque chose de très connu. Ils communient toujours sous les deux espèces. Donc le prêtre a le calice et les orthodoxes qui considèrent qu'ils sont prêts pour la communion communient sous les deux espèces dans une cuillère. Après quoi ils vont manger un petit morceau de la partie du pain qui n'a pas été consacrée et boire une partie du vin qui n'a pas été consacré pour que la première chose qui mangent et qui boivent après la communion soit bénie. Et quelquefois, ils peuvent aussi rapporter ce qu'on appelle ces prosphores à la maison. Si quelqu'un n'a pas pu aller à l'église, on va lui donner un morceau de pain béni.
Elle porte aussi un engagement total. Elle dit « Le Christ n'a pas enseigné aux apôtres à se ménager et à calculer leur amour ». Cet engagement total, elle le dit aussi à sa manière dans un texte que vous citez, qui est celui de la mobilisation que finalement requiert le fait d'être chrétien. Je vous propose de l'écouter, il est lu par Guillaume Galbon.
La guerre, plus que jamais, exige de nous une mobilisation totale de nos forces spirituelles. J'ai bien dit mobilisation, car de même qu'un soldat mobilisé doit être disposé à tout quitter, sa famille, son travail, sa vocation, et à entrer dans une autre réalité temporelle pour servir son pays. Un chrétien qui se mobilise spirituellement doit être prêt à accepter des exigences non moins absolues. Le Christ et l'Esprit Saint vivifiant demandent aujourd'hui tout de l'homme tout entier. La seule différence, c'est que là où la mobilisation militaire est contraignante, l'engagement de la foi est volontaire.
Mariskoptsov, c'est celle qui se donne totalement.
Oui, c'est d'ailleurs un de ses plus beaux textes qu'elle écrit juste au début de la Seconde Guerre mondiale. Elle a vécu la Première Guerre mondiale, elle a vécu jeune, très jeune, la guerre russo-japonaise quand elle était enfant. Et là, elle a vécu la Révolution russe et la guerre civile, donc. Mais là, elle voit arriver très clairement ce qui risque de se passer. Avec une intuition très grande. Et dans ce texte, elle est très attachée et elle va le dire. Protégez-vous, faites attention au choc mental et même au choc spirituel qui va être induit par la guerre, puisque vous n'avez pas seulement un risque physique.
Qu'est-ce qu'elle entend par un choc spirituel ?
Elle veut dire que ce soit les militaires qui participent à la guerre, que ce soit ceux qui subissent la guerre, que ce soit les familles qui attendent de savoir si les combattants vont revenir du front. L'épreuve n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle parce qu'elle nous bouleverse tous. Et que là se pose la question du mal, la question du pourquoi. Comment des choses pareilles peuvent-elles arriver ? Et puis, à partir de 1939, qui est évidemment, et pour tout le monde et pour elle singulièrement, une césure, elle montre bien qu'on ne peut pas être un peu chrétien. On n'est pas un peu amoureux. On ne fait pas un peu de la politique, c'est toujours tout, et on n'est pas un peu chrétien.
Est-ce que vous diriez qu'elle est mystique, Mariskoptsov ? Elle perçoit peut-être ce que d'autres ne perçoivent pas, elle comprend une dimension du Christ qui échappe peut-être au commun des mortels.
Je pense qu'elle se situe avec beaucoup d'humilité dans une tradition. Peut-être qu'elle a ce talent, ce don et cette spiritualité qui lui permet de vivre ce que vous décrivez. Mais dans le fond, elle fait que se raccrocher à une tradition qui est celle des pères du désert. elle n'invente rien, si vous voulez, de ce point de vue.
Et alors, elle a un don total, vous le disiez, il y a aussi un caractère physique, parce que il lui arrive de rester des jours entiers sans manger, sans dormir, de se donner à celui qui va ouvrir. Ça a pu déranger un peu ce comportement total. On imaginait une sœur moniale qui serait peut-être plus à la prière, et on la découvre allant sans cesse auprès de celui qui a besoin.
Alors non seulement elle se déplace, mais elle se déplace aussi beaucoup dans Paris, et puis elle prend effectivement très vite l'habitude d'une absence totale de confort. Je dirais, elle n'est pas dans une cellule dans le 15e arrondissement. En fait, elle dort dans une sorte de cagibi amélioré. Elle dort sur un canapé. Là aussi, c'est très russe comme comportement. Mais enfin, elle a réduit ses besoins matériels à très peu de choses. Et quand elle voit qu'on a besoin d'améliorer l'ordinaire, elle part avant même le petit matin, quelquefois, au hall avec une charrette. Et puis Anatole, qui fait partie de l'action orthodoxe et du foyer, et ils vont au hall récupérer des légumes. Et là, au hall, on la connaît.
Les forces du chrétien sont inépuisables. Voilà une parole de Marie Skoptsov que nous découvrons toute cette semaine avec vous, Laurence Varro. Merci beaucoup. À demain.